voix marseillaise.
Quel est le point commun entre Francis le Belge, Antoine Cossu, Jacques Cassandry et les frères Bengler, tous des légendes du grand banditisme marseillais ? Maître Frédéric Monneret, leur avocat. Depuis plus de 50 ans, il défend inlassablement ses clients au pénal. À son actif, plus de 600 dossiers d'assises et une cinquantaine d'acquittements. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Maître Monneret. Il continue à pratiquer le métier d'avocat avec autant de passion qu'à ses débuts, en 1974. Maître Frédéric Monneret est mon invité aujourd'hui, l'occasion de revenir sur son parcours professionnel, pas comme les autres. Maître Monneret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né où et qui étaient vos parents ?
Alors, moi, je suis né à Alger parce que mon père était ingénieur des arts et métiers et il était effectivement en poste à Alger lorsque je suis né. Je suis allé à l'école communale, donc à Alger. Ma mère était femme au foyer et j'ai toujours été élevé dans un milieu harmonieux. Mes parents, au départ, étaient un peu sceptiques sur la carrière que j'embrassais, celle d'avocat. Parce que mon père, qui avait fait ses études aux arts et métiers à Aix et qui avait de ce fait des copains avocats aixois, m'avait dit que le métier d'avocat était un métier difficile. Et si je reprends son expression, il m'a même dit que c'était un métier de crève-la-faim. Mais malgré son conseil pessimiste, j'ai persévéré. En tout cas, dans les dernières années de sa vie, il a vu mon évolution et il était ravi que je puisse choisir le métier que j'affectionne et que j'aime, dans lequel je m'épanouis totalement.
Est-ce que vous avez des frères et sœurs ?
Alors, j'ai un frère et j'ai une sœur qui sont aujourd'hui retraités. Mon frère, donc, a été professeur d'éducation physique. Quant à ma sœur, elle était inspecteur à l'administration des postes et télécommunications.
Quel type d'éducation vous avez reçu ?
J'ai reçu une éducation stricte où on m'a inculqué effectivement le sens des valeurs traditionnelles. Le travail pour moi a toujours été présenté comme la valeur fondamentale avec l'honnêteté, tout en m'apprenant la tolérance, la liberté et le respect des autres qui est la condition sine qua non pour qu'on puisse vivre en société. Et cette éducation m'a beaucoup aidé pour appréhender le métier qui est le mien, où finalement, si l'on a au fond de soi quelques valeurs traditionnelles qui ont été inculquées par la famille et ses parents, en les respectant, on arrive à avancer dans cette profession et avoir une carrière intéressante.
Quelles études vous avez faites et où ?
Alors, j'ai fait toutes mes études à Aix-en-Provence. J'étais élève du lycée minier à Aix-en-Provence. J'ai fait mon droit à la faculté d'Aix-en-Provence. Et finalement, si j'ai choisi cette profession d'avocat, c'est grâce à un professeur de français que j'avais en classe de première, qui était un professeur qui aimait les grands procès d'assises et qui considérait que le prétoire, dans les affaires criminelles, c'était un endroit où l'on parlait très correctement le français. Donc régulièrement, il amenait ses élèves, à raison d'au moins une fois par mois, à la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour assister à des procès. Et c'est grâce à ce professeur de français que j'ai su ce que je voulais faire. Et grâce à son aide aussi, j'ai réussi à devenir un avocat pénaliste. Et je me suis inscrit au barreau en décembre 1974.
Alors, vous avez commencé, si je ne me trompe pas, vos premiers pas dans la profession auprès de maître Camille Giudicelli.
Camille Giudicelli a été mon maître de stage. C'était une femme remarquable, un tout petit bout de femme, mais qui était une grande dame, avec un cœur immense, avec finalement une compétence extraordinaire en tant qu'avocate. Et moi, j'estime qu'en ce qui la concerne, elle était l'équivalente d'une avocate qui, à son époque aussi, faisait part d'elle, c'était Gisèle Halimi. Et Camille Giudicelli, ça a été pour moi un exemple concret, un modèle dont je me suis inspiré, qui a su m'apprendre mon métier, qui a su m'apprendre la déontologie et qui m'a façonné aussi tel que je suis. C'est grâce à elle que je suis arrivé à ce stade.
Mais qu'est-ce que vous retenez justement du fait de l'avoir côtoyée au tout début de votre carrière? Qu'est-ce qu'elle a laissé chez vous comme trace?
Comme trace, elle a laissé chez moi l'art de la plaidoirie, de la conviction, parce que c'était une femme qui avait une expérience extraordinaire dans le domaine de la rhétorique, qui m'a toujours appris que dans le métier d'avocat, il fallait considérer que rien n'était perdu d'avance, qu'il fallait toujours se battre, et qu'en se battant, on pouvait obtenir des résultats satisfaisant pour son client, satisfaisant aussi pour la société. Et elle m'a appris aussi à respecter un certain nombre de valeurs humaines qui étaient chez elle, finalement, son mode de vie quotidien. Elle a été une grande résistante. Elle avait des principes et ces principes, elle savait les faire partager, elle savait les faire respecter. Et tout ceci se faisait en parfaite harmonie au sein de son cabinet.
Est-ce que vous avez plaidé ensemble ?
J'ai plaidé plusieurs dossiers avec elle, mais c'est elle qui m'a porté sur les fonds baptismaux de la cour d'assises. Et le premier dossier criminel que j'ai plaidé avec elle, c'était devant la cour d'assises de la Drôme à Valence, où on avait plaidé de concert pour un jeune homme qui était accusé d'avoir participé à des vols à main armée. Et c'est vrai que plaider à côté de ce monstre sacré, pour moi, c'est une image que je conserverai toujours. Et elle m'a aidé, et elle avait beaucoup de bienveillance, d'humanité. Franchement, je crois que ça a été le meilleur maître de stage que je puisse avoir.
Et alors, du coup, vous êtes partagé la plaidoirie. Comment ça s'est passé? Quel était votre rôle dans cette affaire?
Alors moi j'avais quand même un rôle modeste puisque c'était ma première affaire d'assises. Donc moi j'avais été amené à plaider sur la personnalité de ce client et elle avait plaidé le fond du dossier. Et en plus le client, je m'en souviens, m'avait marqué parce que ce jeune était un neveu d'un entraîneur de l'équipe de France de gymnastique. La famille qui l'entourait était une famille remarquable. Et moi qui plaidais la personnalité, j'étais très intéressé en me demandant pourquoi ce garçon qui avait tout finalement pour réaliser un parcours sans faute avait eu ses problèmes judiciaires alors qu'il était bien entouré sur le plan familial, une famille structurée, une famille aimante. Et lui, peut-être, était-ce dû à sa jeunesse? C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait « La jeunesse, c'est l'âge au cours duquel on apprend la sagesse, la vieillesse, celui au cours duquel on la pratique. » Et cet apprentissage de la sagesse, c'est certain, fait que parfois on commet quelques exactions avec la jeunesse et on essaie de se racheter ultérieurement. Et je sais que ce garçon, après, a réussi un parcours de réinsertion remarquable et c'est la raison pour laquelle je ne regrette absolument pas d'avoir plaidé pour lui.
Comment vous envisagez la défense d'une personne? Est-ce que vous avez des lignes directrices, une manière particulière d'aborder l'affaire? Vous avez une méthode?
Chaque dossier en soi est différent. Un dossier, c'est d'abord l'histoire d'un homme et que l'histoire de chaque homme mérite effectivement qu'on s'y intéresse par son côté singulier, spécifique. Alors moi, pour aborder un dossier, je vais d'abord voir le client qui me désigne en détention, pour se présenter, pour le connaître, et surtout pour qu'il me donne sa vision du dossier. Je prends des notes.
Est-ce que vous le laissez beaucoup parler? Moi, c'est vous qui parlez beaucoup?
La première fois où je le vois, c'est lui qui parle, parce que c'est son histoire, c'est son dossier. Et la première fois où je vais le voir, hormis la lecture d'un acte d'accusation ou d'un procès-verbal de synthèse pour avoir une idée du dossier qui le concerne, je n'ai pas du tout la connaissance du dossier. Donc je le laisse s'exprimer, je le laisse parler, je prends des notes. Ensuite, je demande bien entendu la copie du dossier. À ce moment-là, j'étudie son dossier Et une fois que j'ai étudié son dossier, je confronte la position de défense qui est la sienne avec la réalité procédurale du dossier. Et c'est une fois que j'ai terminé ce travail que je lui rends à nouveau visite en maison d'arrêt et que je lui explique, selon l'analyse et l'étude du dossier à laquelle j'ai procédé, ce qui va ou ce qui ne va pas par rapport aux éléments objectifs d'un dossier dans le récit qu'il m'a donné, et on essaie de travailler ensemble effectivement sur cette procédure.
Mais vous tentez de savoir d'emblée la vérité avec un grand V en confrontant la position de la police et sa version, ou bien sa vérité compte autant que la vérité judiciaire?
Pour moi, la vérité d'un client compte toujours, puisque de toute façon, moi, quand je suis désigné avec un mandat et que le client, donc, me demande d'être son porte-parole pour développer efficacement et du mieux son système de défense. Après, j'ai un devoir de conseil. C'est sûr que si un dossier est accablant pour un client au niveau des éléments de preuve qui ont été recueillis, à ce moment-là, mon devoir, c'est de lui expliquer quels sont les éléments qui posent difficulté et qui font que s'il continue à avoir le même système de défense, il risque d'aller droit dans le mur. Mais quand j'étudie les éléments qui me sont proposés par un dossier au niveau policier, j'ai toujours du recul. Parce que moi, je pense que pour juger quelqu'un, la principale qualité d'un juge et aussi d'un avocat pour apprécier un élément de preuve, c'est de douter et de toujours douter et de redouter pour pouvoir justement arriver à passer au crible de la raison ces éléments de preuve. J'ai vu certains dossiers où il y avait tous les éléments qui accablaient un client et du reste, ce client fut condamné en première instance. À l'époque, il n'y avait pas la procédure d'appel. Et puis, quelques années après, grâce aux éléments d'enquête qu'on avait pu recueillir, construire une requête en révision de procès et obtenir la révision de ce procès. Et finalement, tout ce qui était apparu comme étant des éléments tangibles, incontournables, c'était des éléments qui ne tenaient pas à l'analyse. Ce dossier auquel je fais allusion, c'est le dossier Rida Dalouche, qui est un dossier très marquant, puisqu'il est un des rares personnages à avoir obtenu la révision de son procès. Voilà un garçon qui, au moment où il est interpellé, est un toxicomane, invétéré, à l'esprit embrumé par la drogue. Quand on l'interroge, on lui demande un alibi. Il donne un alibi qui s'avère inexact. La machine judiciaire se met en route. Il est identifié formellement par un témoin comme étant l'auteur de l'assassinat. Il est condamné. Et puis ce garçon a toujours clamé son innocence. Il y avait tout contre lui. Il avait un mauvais profil. Il avait un physique ingrat. Il était en situation pratiquement irrégulière. Tout l'accablait. Je ne peux pas dire que les gens qui l'ont jugé finalement l'ont jugé de manière scandaleuse, puisque si on prend le dossier avec tous ces éléments-là, on se rend compte que si on coche plusieurs cases, les éléments qu'on peut noter vont dans le sens de la culpabilité. Et ce garçon pleurait après le procès dans mes bras en me disant « Mais je vous jure que je suis innocent ». Je ne savais pas comment effectivement le rassurer, le consoler, donc je lui dis, et c'est un peu la phrase passe-partout des avocats lorsqu'ils n'ont plus grand-chose à dire, je dis à ce client, on va faire un recours en grâce avec des éléments de personnalité, mais j'ai besoin de pièces de personnalité. Après qu'il fut condamné, il avait été condamné de mémoire à 15 ans de réclusion criminelle. Un beau jour, je vois arriver sa sœur dans mon bureau qui m'amène une liasse de pièces. Et parmi ces pièces, il y avait une pièce qui était un bulletin médico-hospitalier qui tendait à démontrer qu'il était à l'hôpital Édouard Toulouse au moment des faits. Réflexe et vice d'avocat pénaliste, au départ, je crois que c'est peut-être une pièce qui est fausse. Donc je prends attache avec le secrétariat d'Édouard Toulouse. Édouard Toulouse me dit « on va vérifier » et 2 heures après, il y a une dame qui m'appelle à mon bureau en disant « On a vérifié, d'après nos registres, il était bien à l'hôpital. » Et c'est sur cette pièce qu'on a bâti effectivement un recours en révision. On s'est rendu compte que voilà un garçon qui était innocent, qui sous le coup de l'émotion, quand on l'accusait d'un crime, s'est inventé un alibi totalement inexact, et que comme il était toxicomane, son véritable alibi, il l'avait oublié. Il y avait un seul élément qui, dans le dossier, permettait donc de faire allusion à cette pièce médicale, c'est que à l'enquêteur de personnalité, et ça n'avait pas été fouillé, il avait indiqué « pendant 3 jours, je suis resté hospitalisé chez les fous ». Et donc, à partir de ce moment-là, recours en révision, la chambre des recours en révision ordonne une enquête. L'enquête est faite. Il s'est avéré, en prenant le registre de ronde de nuit, qu'il était bien au moment des faits dans sa chambre, avec l'impossibilité de sortir. Le procès, donc, dans un premier temps, a débouché sur une suspension de sa condamnation. Il a été rejugé à Montpellier, la cour d'assises de Montpellier l'a acquitté. Mais ça m'a démontré qu'il ne faut jamais être sûr de rien quand on est avocat, et peut-être encore moins quand on est juge, parce que ce qui fait l'art d'un grand juge, c'est de savoir douter et de cultiver le doute.
Qu'est-ce qu'il est devenu, Rida Dalouche, aujourd'hui ?
J'ai plus de nouvelles de Rida Dalouche. J'ai eu l'occasion de le voir quelques années après son procès, puisqu'on avait participé ensemble à une émission de télévision, parce que, comble de l'ironie et tristesse pour lui, il avait demandé à ce qu'il soit indemnisé par rapport à sa détention. Mais comme il y avait à l'époque un article du Code qui disait que lorsque quelqu'un avait contribué à sa perte en donnant des éléments erronés qui ont pu tromper la justice dans son jugement, il n'y avait pas lieu à indemnisation, donc l'indemnisation avait été rejetée. Et c'est vrai que la presse avait été quand même un peu scandalisée par rapport à cette décision de justice. Et c'est Christophe de Chavannes qui, je crois, dans l'émission qui s'appelait à l'époque « Ciel Montmardi », avait organisé un sujet sur Rida Dalouche. Et donc, à cette occasion, je l'avais revue et on avait passé un moment ensemble. Et ensuite, on s'était retrouvés sur le plateau de télévision. Alors depuis, il y a plusieurs chaînes de télévision et journalistes qui ont voulu faire des sujets sur lui, mais ce garçon a toujours refusé maintenant de participer à ces sujets. Il mène une vie tranquille, je crois, et pour lui, ça a été tellement traumatisant qu'il ne veut plus en reparler.
Est-ce que c'est ce type d'affaires qui vous intéresse ? Est-ce qu'il y a des affaires qui vous intéressent plus que d'autres, que vous choisissez ?
Moi, toutes les affaires m'intéressent, notamment en matière criminelle. Ce sont les affaires d'assises qui me font vibrer. Il y a une montée d'adrénaline lorsqu'on est aux assises et lorsqu'on doit plaider. C'est vrai qu'il y a des dossiers exceptionnels comme l'affaire Dalouche, mais tous les dossiers ne sont quand même pas exceptionnels. C'est pas dans tous les dossiers qu'on peut à un tel point toucher la difficulté finalement de la réalité humaine, juridique, d'un procès d'assises. Mais d'une manière générale, chaque dossier d'assises est une histoire complexe et chaque dossier d'assises mérite effectivement cet intérêt. Et malgré les nombreuses années de barre que j'ai à mon actif ou à mon passif, je suis toujours comme au premier jour lorsque je suis désigné dans un dossier criminel. C'est toujours le même intérêt, la même passion qui m'anime lorsque je vais devoir plaider une affaire. Et j'ai toujours également le même trac comme lors du premier dossier d'assises où j'avais fait mes premiers pas avec Camille Giudicelli.
J'ai cru comprendre que vous avez plaidé dans 600 affaires.
J'ai effectivement plaidé dans un peu plus de 600 dossiers d'assises.
Et 50 acquittements.
Une cinquantaine d'acquittements. L'acquittement, c'est quand même une denrée rare. Alors, quand j'entends que les juges sont laxistes, en tout cas, je ne suis peut-être pas un aussi bon avocat que cela, mais j'ai obtenu 50 acquittements. J'aurais peut-être dû en obtenir plus, mais je suis quand même fier des 50 acquittements que j'ai obtenus.
Est-ce que ça a un goût particulier, l'acquittement, pour vous, en tant qu'avocat ? Est-ce que c'est le Graal ? C'est votre but ultime ?
Mais c'est vrai qu'un acquittement, c'est quelque chose d'exceptionnel pour un avocat. Un avocat qui obtient un acquittement et qui a sauvé la vie d'un accusé, on se sent après transcendé par rapport à une décision de justice de cette nature. On a parfois aussi, après certaines affaires, mais il faut retomber aussi vers les réalités, on a tendance peut-être à avoir la grosse tête, il faut le reconnaître, c'est le Graal pour un avocat, mais au même titre qu'à Rome, les généraux, finalement, ont leur montré la roche tarpéienne. Là aussi, après un acquittement, il faut retrouver la réalité et se dire qu'il y a des dossiers où il y a des condamnations très lourdes, parfois des réclusions criminelles à perpétuité. Celles-ci, on s'en vante moins, mais elles existent et il faut savoir aussi les assumer.
On est chez vous, ici, dans votre cabinet, et je vois un tableau en face avec le portrait de 5 hommes. Qui sont-ils ?
Alors, il y a 3 personnages qui ont défrayé la chronique judiciaire marseillaise et nationale, des gens que l'on a qualifiés de parrains. Au milieu du tableau, il y a Francis Van der Berg, dit le Belge, dont j'étais l'avocat. À sa droite, il y a son beau-frère Antoine Cossu, dit Langui. Et à gauche, c'est Jackie Humbert. Ce sont sans doute parmi les gens qui ont fait partie du milieu marseillais de la grande époque, ceux qui sont connus. Et les deux personnages qui les encadrent, ce sont ce que l'on appelait des porte-flingues, ce sont des anonymes. Et ce tableau, si je l'ai dans mon bureau, c'est parce que j'étais l'avocat de Van der Berg, de Cossu, mais surtout parce que ce tableau, il a été fait par Antoine Cossu, qui a des qualités indéniables d'artiste peintre, mais également d'écrivain, parce qu'il a écrit pas mal de bouquins. Et Cossu, chaque fois qu'il était dans le malheur condamné à une lourde peine d'emprisonnement, occupait son temps à écrire, à peindre, et puis faisait du sport pour s'entretenir.
Donc vous voulez dire que ce tableau a été peint en prison ?
Il a été peint en prison par Antoine Cossu.
Il datait de quand ?
94, 95. I tried.
Moi, le premier jour où j'ai rencontré Van Werberg, c'était à la centrale de Poissy.
En quelle année ?
C'est une rencontre qui doit dater des années 87-88, où j'avais été désigné par celui-ci parce que j'étais l'avocat de sa sœur dans une affaire criminelle qui était à Nice. Et finalement, j'avais obtenu rapidement la mise en liberté de sa sœur et elle m'est recommandée auprès de son frère. Donc, lorsque j'arrive à Poissy, je vois un monsieur qui dégage une aura extraordinaire, qui avait vraiment un physique particulier. Je crois qu'il aurait pu être acteur de cinéma.
Il vous impressionne ?
Il est impressionnant, oui. C'est quelqu'un qui, par son physique, son aura est impressionnant. Et puis, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui a un niveau intellectuel élevé. Et il me dit ceci. Voilà, ma sœur m'a indiqué que vous étiez un avocat combatif, que vous aviez des résultats, c'est très bien. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, par rapport à ma personnalité, je suis archi grillé, donc j'ai besoin d'un avocat intègre. Un avocat intègre, c'est un avocat qui ne se compromet pas. Et un avocat intègre doit savoir quelque chose. Les gens qui sont en détention, je vous le livre dans le texte, il y a 95% d'enculés. Ils vont vous demander des tas de choses, de rendre des services, de porter des lettres, d'aller voir tel ou tel individu, de voir un témoin et autres. Ça, il ne faut jamais le faire. Parce que si vous le faites, d'abord, tout le monde le sait et vous n'êtes plus crédible. Et puis d'autre part, si vous avez un problème, les gens qui vous ont demandé ces services, ils ne penseront qu'à eux et ils ne voleront jamais à votre secours. Lorsque vous avez intégré ça, vous pouvez faire une carrière d'avocat pénaliste et vous pouvez être mon avocat. Et c'était le meilleur conseil qu'il puisse me donner. Et quand je discute avec des jeunes avocats qui veulent être des avocats pénalistes, je leur rappelle cette anecdote puisqu'en deux phrases, tout est dit. Ce qui m'intéressait chez ce personnage, c'est que vis-à-vis d'un juge, je ne l'ai jamais vu avoir une attitude violente, déplacée. C'était quelqu'un qui se battait en ayant un sens de la rhétorique un peu hors pair et qui arrivait toujours, à partir des éléments du dossier et d'une connaissance parfaite du dossier, avec la rhétorique, à démontrer que l'accusation était fausse. Il expliquait pourquoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, dans le milieu, pour arriver à un tel niveau, sont des gens qui ont des qualités généralement exceptionnelles. Lui aurait pu faire n'importe quoi. Le regret de sa vie m'a-t-il indiqué quand on en discutait, c'est de ne pas avoir fait d'études et de ne pas avoir fait de politique. Parce qu'il me dit, avec la politique, j'aurais peut-être eu autant de pouvoir et autant d'argent et j'aurais eu moins d'emmerdements judiciaires. Et je crois qu'il aurait pu effectivement exceller en politique. Par contre, dans ses rapports avec peut-être ceux qu'il côtoyait, sur le plan de son business et ses ennemis, il ne devait pas du tout avoir le même langage et la même attitude. Ça, je le conçois tout à fait. Et ce qui m'avait marqué, justement, c'est que j'avais assisté à une confrontation le concernant où il avait été confronté à la frontière suisse, plus exactement au tribunal de Bonneville en Haute-Savoie, avec Scapula, le repenti qu'il avait mis en cause dans l'affaire des 20 kilos où Van Werberg fut relaxé. Et là, devant tout le monde, alors que Scapula était entouré de policiers, devant le juge, il s'en est pas caché, il l'a regardé droit dans les yeux et il lui avait dit, Scapula, tu sais, même dans le ventre de ta mère, si tu te réfugies, je te retrouverai. Et là, j'ai mesuré quand même un peu la force de ce personnage et sa double facette. C'était quelqu'un qui était affable, courtois, avec les gens, effectivement, qui le jugeaient, avec lesquels il travaillait judiciairement parlant, mais qui n'avait pas sa langue dans la poche et qui n'avait pas froid aux yeux et qui cachait pas quelles étaient ses intentions lorsqu'il avait affaire à un ennemi.
Mais avec Francis Lebelge, du coup, votre rôle, c'était quoi ? de l'accompagner tranquillement, de lui donner des conseils, parce que vu la personnalité, on a l'impression qu'il n'avait pratiquement pas besoin d'avocat.
Il avait l'intelligence justement de faire confiance à son avocat, c'est-à-dire que ce qu'il demandait à son avocat, c'est de connaître son dossier, de l'étudier, de lui faire un compte-rendu du dossier et de lui expliquer quels étaient les éléments du dossier. Et à partir de ce moment-là, il donnait son point de vue. Moi, je donnais le mien, mais quand je donnais le mien, il a toujours eu la sagesse de m'écouter. Il n'a jamais fait en sorte de passer outre en me disant « bon, mais c'est bien ce que vous me dites, mais moi, je pense que… » Non, il essayait toujours de prendre conseil. Et du reste, si dans deux dossiers, on a eu des relaxes, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a pris son mal en patience, qu'il a écouté, qu'on s'est battu, qu'on s'est défendu et qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, si on a pu obtenir, notamment dans le dossier des 20 kilos, cette relaxe, c'est grâce aussi aux moyens dont il disposait sur le plan matériel. Parce que j'ai dû me déplacer aux États-Unis pour rencontrer un procureur à New York, pour retrouver des éléments de preuve, pour faire des comptes rendus avec ce procureur. J'ai dû effectivement mandater des huissiers pour faire des constats d'huissiers. Si ça avait été un client lambda, malgré les efforts que je pouvais déployer si j'avais pas eu les moyens d'organiser une telle défense, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette décision.
Vous avez été également un avocat fidèle au frère Saccomanno.
Ça fait plus de 30 ans que je les assiste. Les frères Saccomanno sont des garçons qui ont eu une trajectoire de vie particulière. Et c'est vrai que dans la vie de tout un chacun, les départs que l'on peut avoir dans l'existence sont très importants, très intéressants pour expliquer la trajectoire de vie que l'on a. Les deux frères Saccomanno, Vincent et Bruno, n'étaient absolument pas destinés à avoir une vie tumultueuse, sulfureuse, de bandits de grand chemin. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un père qui avait été mis à la tête d'une société. Cette société, où il était quasiment homme de paille, a fait faillite. Il y a un syndic un peu véreux, je le dis parce qu'après il a été condamné par la justice, qui a fait un mauvais procès à leur père. Leur père a très mal vécu, effectivement, cette situation. Le malheureux, il en est même mort. Et à partir de ce moment-là, au départ, parce qu'ils étaient jeunes, ils étaient littéralement révoltés. Ils sont lancés dans des affaires commerciales.
Ils habitaient à Marseille ?
Non, ils habitaient dans les Alpes, la région de Manosque. Et là, ils ont été victimes de rackets, et donc ils se sont défendus. Et ça a été leur premier passage devant une cour d'assises. Et puis après, malheureusement, la machine judiciaire se met en route. On est pris dans un engrenage. Et ils ont eu pendant plusieurs années une vie sulfureuse qu'ils regrettent amèrement, dont ils ne sont pas fiers. Mais ce sont des garçons qui sont très intelligents. Et aussi bien Vincent que son frère Bruno ont su devenir des hommes d'affaires qui ont des affaires qui fonctionnent bien.
Aujourd'hui,
qui à l'heure actuelle ont une vie familiale, qui à l'heure actuelle paient comme un bon contribuable des impôts à la société et qui ont su tirer un trait sur cette activité délinquentielle qui a été la leur pendant peut-être trop d'années.
Ils ont quel âge aujourd'hui ?
Il y en a un qui a une soixantaine d'années et l'autre qui est un peu plus jeune. Et surtout, ceux qu'ils s'attachent à faire, c'est à faire en sorte que leurs enfants fassent des études, aient comme valeur suprême le travail et une vie parfaitement rangée, sans l'ombre d'une difficulté de délinquance. C'est ça l'ambition qui est la leur au jour d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il vous arrive, maître, de faire un peu de la morale à vos clients de ce type en leur disant il faudra arrêter ou ça vous arrive d'aller jusqu'à là ?
Il y a certains clients avec lesquels on peut faire de la morale ou tout au moins donner des conseils qui ont des connotations d'ordre moral. Encore faut-il que ces clients-là soient intelligents. Ceux qui sont intelligents, c'est quand même pas l'immense majorité. Et j'en connais en tout cas beaucoup qui ont su effectivement s'en sortir, parce qu'ils avaient les qualités intellectuelles pour se faire. Quand on arrive effectivement à un certain âge, quand on a dépassé effectivement 40 ans et qu'on se rend compte que une vie marginale, c'est peut-être pas la panacée, parce que si on fait le bilan entre l'argent qu'on a gagné, les fêtes auxquelles on a participé, les années de prison qu'on s'est tapées, on se dit que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Et on réfléchit, on essaie de s'en sortir, de s'améliorer, de faire autre chose. Et puis moi, ce que je leur dis toujours, c'est que si au bout d'un certain nombre d'années, on continue à avoir des déboires judiciaires et à se retrouver en prison, c'est qu'ils ne sont pas très bons dans le genre d'activité marginale et qu'il vaut mieux faire quelque chose d'autre.
Vous avez été également l'avocat de Jacques Cassandry, le cerveau du casse du siècle en 1976 à Nice, à la Société Générale.
Ah, Jacques Cassandry, c'est aussi un personnage hors norme. Jacques Cassandry, c'était d'abord un grand humaniste qui a fait ses classes, pas dans la voyoucratie, mais dans la franc-maçonnerie à une certaine époque, qui était un homme cultivé. C'était un homme qui écrivait bien. Il fait allusion à propos du cas sur le bouquin qu'il avait sorti, qui lui a valu pas mal de déboires amigaux.
Pas très longtemps d'ailleurs.
Il n'y a pas très longtemps. Ce livre, pourquoi l'a-t-il fait ? Ce livre, il l'a fait peut-être parce que...
Il vous a demandé conseil d'ailleurs, quand il a écrit ce livre ?
Il ne m'a pas demandé conseil quand il a écrit ce livre, parce que le problème de ce livre, lui pensait qu'en écrivant ce livre, les faits étaient prescrits. C'est vrai qu'ils étaient prescrits, mais en droit pénal français, il y a un délit qui est quasiment imprescriptible, c'est le recel. Et donc, on s'est dit... du côté donc des services de police et de l'accusation, que si cet homme qui avait raccroché les gants en se lançant dans des affaires commerciales multiples, il l'avait fait avec de l'argent et que cet argent provenait vraisemblablement du casse de Nice. Et donc, on a voulu rechercher sa responsabilité sur la base du recel, en disant « mais monsieur, vos affaires successives, vous les avez peut-être financées, c'est vrai ». En revendant une affaire pour en remonter une autre, mais à la base, la première affaire, il a bien fallu la financer. Et donc, on peut penser que vous l'avez financée avec de l'argent, qui est de l'argent d'origine illicite.
Et donc, qu'est-ce qu'il tenait d'ailleurs comme affaire
C'est quelqu'un qui était un homme qui avait eu plusieurs restaurants, plusieurs bars.
Ici à Marseille.
Des boîtes de nuit de renommée nationale. Et qui s'est retrouvé dans les ennuis parce qu'on lui a dit donc on va rechercher votre responsabilité au niveau donc du recel. Et puis dans les affaires que vous traitez, comme c'est souvent malheureusement le lot de toutes ces affaires de boîtes de nuit, restaurants ou autres, il y a un certain nombre de membres du personnel qui ne sont pas déclarés, vous faites du travail clandestin. Et donc, on vous reproche le blanchiment du recel de travail de clandestin et de fraude fiscale. Mais le nœud du problème, c'était cet ouvrage. Et donc, comme il est intelligent, on avait eu une discussion et je lui avais dit, Jacques, vous savez, même si cela vous pèse, vous êtes quelqu'un d'intelligent, il est bon de mettre un mouchoir sur son orgueil. Amigo, c'est un roman. Un roman, c'est pas l'ouvrage de quelqu'un qui, sur la base d'éléments de preuve, développe une thèse qui est nécessairement le reflet de la réalité. Un roman, c'est romanesque, c'est romancé, et donc la meilleure stratégie de défense, c'est de dire que vous avez voulu écrire un roman et que vous laissez à chaque lecteur le soin d'apprécier, de considérer que vous êtes le cerveau du casse de Nice ou de considérer que tout ceci n'est qu'un roman et que finalement c'est une belle histoire mais qu'elle n'est pas nécessairement une preuve dont on peut se servir en justice. Et c'était l'approche qui avait été la sienne devant le tribunal correctionnel et pour le recel, on avait été relaxé.
Allons mettons dans les quartiers nord, maître, puisque vous plaidez aussi dans des affaires qui concernent des clans qui font dans le trafic de drogue, et notamment la famille Bengler, qu'on dit à la tête du clan des Gitans. Il y a quelques années, vous avez donc été l'avocat de Nicolas Bengler. Vous savez comment il est arrivé vers vous ?
Vous savez, les avocats pénalistes qui plaident aux assises, il n'y en a quand même pas légion. On est quelques-uns à faire ce métier. Et donc, on est quelques-uns à avoir une audience nationale. Donc, Nicolas Bengler m'a désigné par rapport au fait qu'il avait entendu parler de moi en tant qu'avocat pénaliste. Voilà comment je me suis retrouvé l'avocat de Nicolas Bengler. Mais ce qui m'a intéressé dans ce dossier, le concernant, et concernant son frère François...
Oui, rappelez en quelques mots l'affaire.
L'affaire, c'est-à-dire qu'à une époque, justement... Au moment où il y a eu beaucoup de règlements de compte dans les cités marseillaises avec un arrière-fond de trafic de stupéfiants...
Les années 2010.
Voilà, on a eu tendance à tout leur mettre sur le dos. Tout ce qui se passait à Marseille, c'était l'affaire des Bengler. Rien ne pouvait éclater sans que ne plane l'ombre des Bengler...
Ou des blacks,
du côté des services de police. C'était relayé par une certaine presse un peu en mal d'exotisme, qui aimait reprendre ces faits divers en les romançant un petit peu. Et donc, moi, ce qui m'est apparu très rapidement, et c'est pour ça que ce dossier m'a intéressé, c'est que ces gens-là, finalement, rien n'établissait, ne prouvait leur implication dans tous ces dossiers. Et du reste...
Dossier d'assassinat.
Oui. Ils se sont retrouvés impliqués, mis en examen dans beaucoup d'affaires. Dans la plupart de ces dossiers, ils ont bénéficié de non-lieu. Et l'accusation a choisi de les renvoyer devant deux dossiers, en se disant que les renvoyer dans deux dossiers, ça permettrait de renforcer l'accusation. Donc, on les a renvoyés devant la cour d'assises, François, Nicolas et d'autres personnes, dans le dossier dit du Clos de la Rose, où un jeune avait été tué et où un autre avait été blessé. Et on les avait renvoyés également pour un fait où là, ils avaient été arrêtés en flagrant délit, un enlèvement avec une séquestration, celle de cet individu s'appelle Monsieur Cassemi, je crois de mémoire. Mais le dossier du Clos de la Rose, il était à l'image de ceux où ils avaient obtenu un non-lieu. Moi, dans ce dossier, quand je l'ai étudié, j'ai tout de suite pensé que ce dossier ne pouvait pas déboucher sur une condamnation les concernant.
Pourquoi ?
Parce que c'était toujours pareil. Renseignements anonymes. Quand on sait que des renseignements anonymes, ils émanent pas la plupart du temps d'honnêtes gens qui veulent contribuer à l'œuvre de justice, mais plutôt qu'ils émanent de concurrents qui veulent vous éliminer. Ces renseignements anonymes, qui ont peut-être été relayés deux ou trois fois, ils étaient étayés par aucun élément de preuve. Et puis surtout, dans ce dossier, on avait bâclé un élément fondamental, c'est que Nicolas Bengler, que je défendais, a toujours prétendu qu'au moment des faits, il se trouvait dans un camp de gitans, en citant les personnes avec qui il était, et que ces alibis, malgré nos demandes, n'ont jamais été vérifiés. Donc, à partir de ce moment-là, il y aura toujours un doute sur la culpabilité, effectivement, d'un accusé. Et lorsque le dossier est arrivé devant la cour d'assises, c'est vrai que les services de police, en toute objectivité, ont reconnu qu'ils avaient commis une erreur en ne vérifiant pas cet alibi qui avait été donné par Nicolas Bengler. Et donc, dans ce dossier du Clos de la Rose, où on avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, ça a été un acquittement général. Par contre, on les a condamnés dans l'autre dossier, où ils ont été condamnés à 20 années de réclusion criminelle. Mais l'autre dossier, effectivement, tenait, la culpabilité était établie. Puis si on les a condamnés aussi sévèrement, c'est parce que, avec tout le ramdam qu'il y avait eu autour des frères Bengler, on a prononcé une sanction lourde, me semble-t-il. Mais ce qui m'importait surtout, c'était d'avoir l'acquittement dans un dossier, celui du Clos de la Rose, où manifestement l'accusation ne reposait sur rien.
Maître, est-ce que vous avez bien fréquenté la famille Binglaire. Est-ce que vous vous êtes rendu sur leur lieu d'habitation? Est-ce que vous les connaissez bien? Parce que c'est vrai que cette famille, on entend beaucoup parler d'elle. Quel regard vous jetez sur ce clan et le clan adverse?
Écoutez, alors moi, le clan adverse, le clan des Blacks, je ne le connais pas. Si ce n'est que j'ai eu un client qui faisait partie du clan des Blacks, qui à un moment donné aurait été victime, soi-disant, d'une tentative donc d'homicide de la part de Nicolas Binglaire. Et finalement, ce Black a indiqué au service de police qu'il n'avait aucune embrouille avec Nicolas Binglaire, qu'ils étaient amis d'enfance et que chacun avait fait sa route, et il n'a pas maintenu la moindre accusation contre lui. La famille Binglaire, moi je la connais pour la rendre visite en détention, je connais les deux frères, mais celle que je connais, qui est une femme remarquable, c'est leur mère, Brigitte, qui est présente pour ses fils, mais surtout, cette femme, malgré son âge, c'est elle qui élève, et elle les élève bien, les enfants de ses fils, qui sont en détention. Elle a obtenu des jugements comme tiers dignes de confiance de la part du juge des enfants. Et c'est elle qui vraiment se lève l'âme pour que ces gamins puissent avoir une bonne éducation. Elle les amène en traversant toute la France en centrale pour que ses fils voient leurs enfants. Elle, je peux vous dire, c'est le seul membre extérieur de la famille que je connaisse. C'est vraiment une femme remarquable.
C'est-à-dire, vous la voyez ici, dans votre bureau?
Je vois dans mon bureau, bien entendu.
Vous ne vous déplacez jamais?
Non, je ne connais pas son appartement. Et puis, elle est chaque fois venue me voir ici, au cabinet.
Quel regard vous jetez, justement, sur ce nouveau banditisme depuis 20 ans qui marque comme la cité phocéenne, avec beaucoup de règlements de compte par rapport à l'ancienne génération, Francis Lebelge, les Sacomano et tout ça? Vous avez connu ces deux générations.
C'est-à-dire que le milieu traditionnel, celui auquel vous faites allusion, de Van Werber, de Cossu, voire de Zampa, c'était un milieu structuré, hiérarchisé, où on respectait donc les personnes qui avaient de l'aura et qui pouvaient canaliser tous ces phénomènes. Au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que on n'a plus ce milieu structuré, hiérarchisé. Quand on a besoin, du côté des têtes pensantes, d'avoir des hommes de main, on recrute des jeunes en déshérence sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de ce moment-là, ça part un peu dans toutes les directions. Et puis, les gens que l'on recrute aussi ne sont pas des gens qui sont familiarisés, spécialisés avec le maniement d'armes de guerre ou autre. Et il y a parfois, malheureusement, des débordements, des dommages collatéraux qui sont dus au fait que on ne sait pas du tout se servir d'armes redoutables telles que celles qui sont utilisées. Mais maintenant, au niveau de la violence, et il faut être objectif, si l'on compare, je pense, le nombre des personnes victimes de règlements de compte à l'époque du grand banditisme et les règlements de compte qu'il y a à l'heure actuelle à Marseille, je pense que la comparaison doit être éloquente et qu'on ne doit pas être très éloigné au niveau du nombre de victimes. Par contre, la différence, c'est qu'avant, les victimes, c'était des gens du milieu qui avaient, volontairement ou pas, fait un choix de vie de faire partie d'équipes de gangsters et qui s'attendaient effectivement peut-être à avoir une fin tragique, en tout cas à pas mourir dans leur lit. Le drame à l'heure actuelle, c'est que aussi bien les hommes de main qui passent à l'acte que les victimes sont des jeunes gens qui, a priori, sont pas du tout prédestinés à avoir une vie aussi misérable et à finir de cette façon. Et ce qui me choque au premier chef, c'est qu'on a l'impression que tous ces jeunes gens vivent dans un monde virtuel, peut-être ceux des jeux vidéo qui ont bercé leur enfance. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Et ce sont des vies gâchées de part et d'autre, aussi bien des victimes que des auteurs. Moi, c'est ce qui me frappe le plus.
Comment vous gérez la mort d'un client, la mort violente d'un client? qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a des morts qui vous touchent plus que d'autres?
Moi, j'ai eu plusieurs clients qui ont été tués. Et je dois dire que pour moi, ça a toujours été effectivement quelque chose de dramatique. Quand on a connu quelqu'un, quand on l'a défendu, quand on s'est investi dans sa défense, quand on a cherché à rentrer un peu dans son jardin secret, son intimité, sa pensée, son cœur, que l'on a eu des confidences et autres, c'est sûr que c'est quelque chose de bouleversant et qu'on se dit que c'est un énorme gâchis et que personne ne mérite de terminer de cette façon.
La mort de Francis le Belge, comment vous l'avez accueillie?
La mort de Francis le Belge, quand je l'ai accueillie, justement, j'étais en cour d'assises à Aix-en-Provence. C'est vrai que quand je l'ai su, c'était avant de plaider, ça m'a quand même secoué.
Vous vous attendiez à cette fin-là, alors, pour lui?
Lui, de toute façon, considérait qu'il ne mourrait pas dans son lit. Lui, c'est quelqu'un...
Jeune? Qu'il allait mourir jeune?
Lui, par rapport à la trajectoire de vie qui était la sienne, ne s'attendait pas à mourir paisiblement dans son lit de vieillesse ou de maladie. Maintenant, il ne pensait pas non plus qui finirait de cette manière aussi vite. Ce que je pense, pour ma part, et ce qu'il a perdu, c'est justement d'être parti vivre à Paris, où il pensait à Paris acquérir la respectabilité. C'est vrai qu'il vivait dans un quartier qui était huppé. C'est vrai qu'il fréquentait des gens qui n'avaient rien à voir avec le grand banditisme, quelques grands reporters de la télé ou autres qui fréquentaient le Fouquet's avec qui il s'était lié d'amitié. Mais ce faisant, il s'est littéralement exposé parce qu'il était seul et terriblement seul. Il n'avait personne pour le protéger. Et peut-être ce qu'il a perdu à un moment donné, c'est un peu le péché d'orgueil en se disant que finalement, il était inattaquable. Mais quand on a vécu dans un certain milieu pendant des années, dans le milieu, il y en a beaucoup, effectivement, qui ont la rancœur tenace. Et si on est arrivé à ce stade, au niveau de la notoriété dans la délinquance, on n'a pas que des amis.
On a une idée qui l'a tué?
L'affaire n'a jamais été élucidée. J'ai aucune idée.
Vous préférez ne pas le savoir?
Je préfère ne pas le savoir. Parce que si je le savais, ça risquerait peut-être de me décevoir.
Alors, une des dernières questions, comment vous faites pour décompresser, pour gérer l'angoisse, le stress de ces affaires? Est-ce que vous avez des activités extra-professionnelles qui vous permettent de récupérer et d'être d'attaque dans les affaires, dans les multiples affaires que vous plaidez?
Alors moi, ce qui me déstresse, c'est peut-être... Une activité que certains trouveront au contraire stressante, c'est la conduite automobile. J'adore les voitures, toutes les voitures quelles qu'elles soient, et particulièrement les voitures de sport, les voitures de course.
Vous avez une collection?
J'ai eu de belles autos, en ce moment je n'en ai plus. Il m'arrive d'en louer ou de m'en faire prêter. Et j'aime bien, pour me détendre, conduire des voitures ou simplement aller me balader dans la campagne en voiture. Pour moi, c'est la meilleure forme de détente.
La notion de transmission, est-ce que ça vous parle, maître? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est cher, de transmettre ce que vous avez acquis depuis tant d'années au niveau professionnel?
Bien sûr que la transmission, c'est quelque chose d'important, puisque moi-même, j'ai bénéficié de cette transmission, notamment de la part de Camille Giudicelli, ou de la part de fréquentations d'avocats comme Jean-Louis Pelletier. Je suis content à Marseille d'avoir travaillé avec beaucoup de jeunes avocats que j'ai formés, qui depuis ont gravi les échelons, qui sont compétents.
On peut les citer?
Oh, je les cite. Pascal Roubaud, qui pendant des années a été un collaborateur fidèle. J'ai eu également au sein de mon cabinet Denis Fayol. J'ai Chehid Salmi, j'en ai d'autres que j'ai pas eu comme collaborateurs, mais avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, comme Pierre Bruno. Tous ces jeunes, je les ai côtoyés, je les ai aidés, je les ai formés, j'essaie de leur donner de bons conseils et je suis ravi de constater que ils ont pu effectivement gravir les échelons. Et je pense que tous, et ce que je leur souhaite, c'est que les élèves dépassent le maître.
Qu'est-ce qui était le plus important pour vous de transmettre justement à ces jeunes avocats ?
Ce qui est le plus important pour moi de transmettre, c'est d'abord de dire qu'il faut toujours travailler avec une honnêteté scrupuleuse, que ce soit intellectuellement, que ce soit l'honnêteté au sens traditionnel, qu'il faut respecter le client, parce que c'est le client qui nous fait vivre, et puis qu'il faut toujours savoir se battre, jamais considérer qu'on est battu d'avance, et surtout travailler, travailler et travailler, c'est comme ça qu'on obtient des résultats et que l'on devient un avocat.
Merci Maître Frédéric Monneret, au revoir.
Au revoir et merci.
Vous venez d'écouter Voix Marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.